Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Le tribunal de Louga au Sénégal a condamné le 4 décembre à 2 ans de prison avec sursis le maître d'une école coranique de Ndiagne qui enchaînait des élèves. Le procureur avait requis 2 ans d'emprisonnement dont 2 mois ferme. Quelques jours avant le verdict, les sympathisants du marabout Cheikhou Naguey avaient saccagé le tribunal pour qu'il soit relâché avec ses 5 co-prévenus, 4 parents et le forgeron qui a fabriqué les chaînes. Tous ont été condamnés à la même peine. Selon les organisations de défense des droits humains, de nombreux talibés sont forcés à mendier par leur maître et soumis à des abus et des négligences qui ont entraîné la mort d'une 15aine d'enfants ces 2 dernières années. La République démocratique du Congo ne doit plus être la capitale mondiale du viol, a affirmé le 3 décembre à Kinshasa la première dame de Nice, Nia Kero Tshisekedi, ajoutant que la honte doit être bannie, le crime puni et la justice doit être rétablie. Madame Tshisekedi a été désignée championne de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur ce sujet, Pramila Patten. Il a été enregistré en octobre 2019 une augmentation des violations des droits humains de 19% par rapport au mois précédent. Les agents de l'État sont responsables de 55% des violations selon l'ONU. Un tribunal d'Ankara a condamné à de lourdes peines de prison 2 hommes ayant tué et violé une étudiante de 23 ans. L'homme d'affaires qui avait employé la jeune femme comme assistante a été condamné à la prison à vie pour homicide volontaire et viol. L'autre homme a été condamné à 18 ans de prison pour l'avoir aidé. En mai 2018, le corps de Soulesset avait été retrouvé au pied d'un immeuble après être tombé du bureau du businessman au 20e étage. Les autorités turques avaient qualifié la mort de suicide avant qu'une enquête soit ouverte sous la pression des proches de la victime. Le rapport d'autopsie indique que la jeune femme a subi un viol et qu'elle avait sous les ongles des traces d'ADN de l'un des 2 hommes. Quelques heures avant sa mort, l'étudiante avait envoyé un SMS à une amie dans lequel elle disait être retenue contre son gré. Plus de 390 femmes ont été tuées en Turquie en 2019. Aux États-Unis, la sénatrice Kamala Harris a annoncé le 3 décembre qu'elle abandonnait la primaire démocrate, faute de fonds suffisants pour financer sa campagne. « Ma campagne pour être élue présidente ne dispose tout simplement pas des moyens dont nous avons besoin pour continuer », a écrit dans un communiqué l'ex-procureur de Californie. Alors que la campagne avance, il est devenu de plus en plus difficile de lever l'argent dont nous avons besoin pour nous battre, a-t-elle annoncé, avouant avoir dû prendre l'une des décisions les plus dures de sa vie. En 2011, Madame Harris était devenue la première femme à diriger les services judiciaires de l'État californien. En janvier 2017, elle a prêté serment au Sénat à Washington, s'inscrivant comme la seconde sénatrice noire dans l'histoire américaine. La footballeuse Megan Rapinoe, co-capitaine de l'équipe américaine championne du monde 2019, a remporté le 2e ballon d'or féminin de l'histoire le 2 décembre dernier à Paris. La joueuse de Seattle, meilleure buteuse et meilleure joueuse du mondial, succède à 34 ans à la Norvégienne Ada Hegerberg, l'attaquante de Lyon sacrée en 2018 pour le lancement de ce trophée organisé par France Football. L'icône de la lutte pour les droits des LGBT et l'égalité homme-femme a devancé l'anglaise Lucy Bronze et sa compatriote Alex Morgan dans un classement établi par un panel de journalistes sportifs internationaux.
Parole de femme.
Plus de 60 migrants africains sont morts noyés le 4 décembre 2019 au large de la Mauritanie. Une pirogue était partie de Bara en Gambie le 27 novembre avec près de 200 migrants à bord, dont plusieurs femmes et une majorité de jeunes. Près de 25 000 jeunes africains sont morts depuis janvier 2014 dans des naufrages, selon l'OIM. Yaï Bayam Diouf, présidente du collectif des femmes pour la lutte contre l'immigration clandestine au Sénégal, est la première femme à pratiquer l'activité de pêche à Tiaroué-sur-Mer. Elle a créé un centre pour l'entrepreneuriat des femmes afin que les membres de la famille ne soient pas tentés par le départ sur ces embarcations de fortune. Madame Diouf a perdu son fils dans l'un de ses voyages meurtriers avant celui de Bara.
J'ai un sentiment de consternation par rapport à ce qui s'est passé avec la disparition de plusieurs jeunes Africains, particulièrement des Sénégalais et des Gambiens, qui avaient pris des pirogues artisanales pour aller en Europe et chercher une meilleure vie. Ça me donne un mauvais souvenir par rapport à la disparition de mon unique fils au large de la Méditerranée, quand il voulait aller en Europe pour y chercher une meilleure vie. Donc actuellement, je suis dans tous mes états pour vous montrer que la femme souffre le plus quand elle perd un être cher, surtout quand elle perd un homme dans nos sociétés, sur le plan social, traditionnel et patriarcal. Je suis très peinée.
Est-ce que vous avez compris pourquoi votre fils justement souhaitait partir? Et est-ce que c'est par rapport à cela que vous avez pu organiser ces formations et notamment créer cette association de lutte contre l'immigration clandestine au Sénégal?
Oui, mon fils, comme tant d'autres jeunes de nos pays africains, particulièrement au Sénégal, sont partis pour chercher une meilleure vie, sont partis par rapport à la rareté de nos ressources naturelles, surtout par rapport à la pêche. Nous sommes communauté de pêche. Et ils sont partis avec l'espoir d'avoir un meilleur vie. Donc c'est par rapport à ça, la disparition de mon fils en mer a été un déclic pour moi, pour mener tous ces combats, pour montrer qu'il y a des possibilités dignes et honnêtes de rester au pays et du travail.
L'on suppose que vous faites de la sensibilisation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites dans votre sensibilisation par la population?
Nous ciblons particulièrement les associations de jeunes. Nous ciblons aussi les notables, les religieux, les acteurs de la pêche. Mais dans la sensibilisation, nous montrons qu'avec les centres de formation qu'on a mis en place, il y a des possibilités de se former, mais aussi d'être orienté au niveau des structures d'employabilité, de financement, d'apprentissage pour les jeunes.
Quelle est la responsabilité du gouvernement dans ce problème de migration clandestine de jeunes qui vont jusqu'à risquer leur vie pour aller dans d'autres pays?
Les responsabilités sont partagées. Il y a la responsabilité de nos communautés, de nous-mêmes, de nos gouvernants, mais aussi de l'Union européenne globalement. Parce que nos gouvernants doivent mettre en place des structures d'accueil, de formation, d'orientation pour que ces jeunes, aussitôt après formation, qu'ils puissent s'insérer dans le tissu économique et social. Nos communautés, nous devons éduquer nos familles, avoir le sens civique, aider nos jeunes à être responsables, à avoir confiance en eux, mais aussi à avoir confiance en nos ressources. À l'Union européenne, ils ont mis en place une police au niveau de nos frontières, qu'on appelle le Frontex, qui n'est là que pour la répression. Tous ces moyens, si l'Union européenne les avait mis à la disposition de nos communautés, moi je pense que ces jeunes n'allaient pas prendre des pirogues pour mourir en mer. Donc les responsabilités sont partagées entre nos gouvernants, entre nos communautés, mais aussi entre nos partenaires au développement, surtout l'Union européenne.
Madame Diouf, parlons des passeurs à présent, ces passeurs qui font le trafic de l'immigration illégale. Comment lutter contre les passeurs? Parce que l'on sait que dans ce dernier cas, et je cite l'AFP, par rapport à des témoignages de l'AFP, les passeurs cherchaient des passagers et quand mon petit-fils et deux autres personnes du quartier en ont entendu parler, ils ont décidé de se joindre au voyage. Donc là, on a vraiment des gens qui sont actifs au sein même des populations, dans un petit village notamment, un village de la Gambie. Donc, ces passeurs, selon vous, est-ce que là, ce n'est pas aussi la responsabilité du gouvernement, quand même, de lutter contre ces gens-là?
Oui, au niveau de notre association, on mise sur la sensibilisation, mais aussi sur les alternatives. Et dans la sensibilisation, nous avons été approcher les passeurs avec qui nous vivons dans les quartiers. Nous avons parlé avec eux, nous avons conscientisé sur l'impact des dangers de cette migration clandestine. Au début, ils n'avaient pas compris. Mais après, au fur du temps, on a insisté, on a parlé, on a été les rencontrer, on les a associés dans la prise de décision par rapport à la migration irrégulière. Et ces passeurs maintenant, ils sont avec nous. Et la plupart des passeurs, c'est des gens qui sont de nos communautés pêcheurs. C'est eux seuls qui savent conduire les pirogues d'ici du Sénégal, d'Afrique jusqu'en Europe. Et parce que maintenant, ils connaissent la géolocalisation, ils connaissent avec les maps le trajet pour aller en Europe. Et on les paye des sommes trébuchantes. De plus en plus, ce n'est plus nous, mais des gens qui sont très aisés, qui ne connaissent même pas la pêche, qui cherchent des clients, entre guillemets, qui reviennent encore chez nous pour dire à ces jeunes, partez sur la pirogue, on va vous payer beaucoup d'argent avec votre famille. C'est ça qui a fait renaître cette migration irrégulière. Avec la sensibilisation, on a fait des efforts, on a mis en place un centre de formation, on oriente les jeunes, on les réfère, on cherche même des emplois par rapport à la RSE au niveau de nos localités. On ne se décourage pas. On va continuer la sensibilisation en tant que femme. On va continuer à montrer les alternatives, qu'il y a des possibilités de vivre dignement, de vivre honnêtement au niveau de nos pays africains, parce que ça regorge d'énergie, ça regorge de ressources naturelles. Moi qui vous parle, comme vous l'avez si bien dit, je viens de la mer, j'étais parti pêcher du poisson que je suis en train de vendre pour la survie de ma famille, de ma communauté, mais aussi des emplois que j'ai recrutés dans le cadre de la transformation des produits de la pêche.
Je reviens sur le problème des passeurs. Bon, vous les avez sensibilisés, maintenant ils comprennent, etc. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui continuent et qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Et dans le cas notamment de Bara, une victime a dit que les passeurs les avaient laissés tomber et que l'embarcation avait erré en mer avant le naufrage. Donc encore une fois, ce sont des personnes qui ont des dizaines de morts sur la conscience. Est-ce que vous savez, Madame Diouf, s'il y a déjà eu des arrestations et des jugements par rapport à cela?
Oui, il y a des arrestations, il y a des jugements par rapport à ça. Parce que c'est un voyage illégal. Et je l'ai dit tantôt, c'est presque de la mafia. Des fois, ils prennent des pirogues, ils te font miroiter Dakar, ils vont miroiter le Sénégal, et ils reviennent pour te dire que la pirogue a des problèmes, il y a la police. C'est un nouveau trafic qui commence à naître dans nos pays africains à travers la traversée clandestine. Beaucoup de gens s'y adonnent parce que c'est pas réglementé, c'est pas très bien connu, c'est pas bien organisé. Donc, avec les passeurs, la police a fait la répression de plusieurs passeurs qui sont maintenant en prison au niveau du Sénégal.
L'on sait que dans ce dernier naufrage, il y avait notamment des Sénégalais, des jeunes Sénégalais. Est-ce que la politique de lutte contre le chômage au Sénégal, selon vous, est à la hauteur?
Dans mon pays, le gouvernement a mis en place des infrastructures pour l'employabilité des jeunes et aussi pour le financement des jeunes. Mais des fois, ce n'est pas très connu par la cible parce qu'il y a un problème de communication entre les politiques publiques et les populations. Des fois, il y a des méconnaissances. Et nous, en tant qu'association, notre rôle est d'aller voir ces structures étatiques pour informer, donner l'information à ces jeunes pour qu'ils s'engagent à aller les rencontrer.
Yaï Bayam Diouf est présidente du COFLEC, le collectif des femmes pour la lutte contre l'immigration clandestine au Sénégal. Les restaurants et cafés en Arabie Saoudite n'ont plus l'obligation de disposer d'entrées séparées pour les femmes depuis le 9 décembre 2019. Ces établissements devaient jusqu'alors prévoir deux entrées, une pour les hommes seuls et une autre pour les femmes et les familles. Le royaume poursuit son programme de réforme qui comprend un assouplissement des interdictions pesant sur les femmes. La répression contre les militantes féministes est toutefois accentuée et plusieurs d'entre elles sont encore emprisonnées.
Si je ne pouvais.
Au Cameroun, les 15-24 ans sont durement touchés par le VIH-Sida. Cette incidence est plus élevée chez les filles, selon la dernière enquête réalisée dans le pays. Des jeunes élèves et étudiants sensibilisent désormais leurs camarades sur cette pandémie afin de faire reculer la tendance. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap, leur a tendu le micro.
Au Cameroun, la jeune fille court 9 fois plus de risques d'être infectée par le VIH par rapport aux jeunes garçons, si l'on s'en tient aux résultats de la dernière enquête réalisée par l'évaluation d'impact sur le VIH-Sida au Cameroun. Dans les établissements scolaires, les jeunes filles, pères éducateurs ou membres des clubs santé, ont pris à bras le corps la sensibilisation contre le VIH-Sida. Issues de 67 établissements scolaires du pays, elles ont reçu il y a quelques jours un important don de matériel de sensibilisation contre le VIH dans les locaux de l'ONG Synergie africaine qui lutte contre le sida et les souffrances. Jean-Stéphane Biatia, secrétaire exécutif de Synergie africaine.
C'est l'accomplissement d'un devoir chaque mois de novembre, en prélude à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, qu'on puisse se rapprocher de nos cibles prioritaires, la jeunesse, à travers les établissements scolaires et les associations.
Raïssa, l'une des bénéficiaires, est une élève en classe de seconde au collège Fleming à Yaoundé.
Quand il y a des activités à l'école, je leur dis de s'abstenir, que le sexe peut attendre. Et même si c'est pas possible d'attendre, il faudrait mieux se protéger en utilisant des préservatifs.
Dans l'un des plus grands établissements de la capitale, le lycée général de Clegg, Gloria, élève en classe de première, est la vice-présidente du club santé. Elle focalise ses activités dans cet établissement sur la jeune fille.
Je dois sensibiliser la jeune fille, parce que la jeune fille doit connaître comment se défendre face à une maladie comme le VIH-Sida. Par exemple, pour pratiquer l'abstinence, parler en d'autres jeunes, je prends un langage de jeune. Il y a certaines têtes dures qui se montrent, mais je pour sensibiliser ceux qui sont prêts à suivre la formation.
Des élèves garçons mènent également des campagnes de sensibilisation contre la pandémie. Christian s'y est impliqué depuis 4 ans au lycée de Nkolnda, dans la périphérie de Yaoundé.
Nous avons souvent des campagnes de sensibilisation pour montrer aux élèves comment vivre avec une personne qui a le sida, comment est-ce qu'une mère qui a le sida peut enfanter, comment quelqu'un qui est porté de sida peut prendre ses médicaments.
D'autres structures viennent en appui à ces jeunes élèves. Parmi elles, le centre médical Navi, spécialisé dans le sévrage et la responsabilité des jeunes contre la drogue. Docteur Abel Messina, médecin en santé mentale.
Que ces deux pandémies vont ensemble, le sida et la drogue. Si 10 personnes que je reçois par jour en consultation, j'ai au moins 6 jeunes, scolarisés comme non scolarisés. Nous les prenons pour un traitement de sévrage.
En 2018, plus de 280 000 personnes vivaient avec le VIH au Cameroun pour un taux de prévalence de VIH de 3,4%, soit un taux d'accroissement de 10% par rapport à 2017. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Zozibini Tunzi, Miss Afrique du Sud, a été couronnée Miss Univers 2019 le 8 décembre à Atlanta, à l'issue d'une cérémonie où il a beaucoup été question du droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. La jeune femme noire de 26 ans a terminé devant les concurrentes de Porto Rico et du Mexique. Miss Afrique du Sud a été chaleureusement applaudie après son dernier discours, une nouveauté dans la compétition, où elle a déclaré vouloir tout faire pour encourager les jeunes filles à prendre confiance en elles. Miss Univers, Miss USA, Miss America et Miss Teen USA sont toutes des jeunes femmes noires. Le livre « Vecteur de développement » était le thème de la troisième édition de la Foire internationale du livre à Lomé au Togo. Du 6 au 10 novembre dernier, des ateliers littéraires, conférences et rencontres d'écriture ont été organisés sur le rôle de l'écrivain dans le processus d'avancement du continent et sur la manière d'encourager la lecture et de susciter des vocations chez les adolescents. Kay Lawson était de la partie.
Le livre est vecteur de connaissance et la connaissance fait le développement.
C'est le point de vue de Mimi Bossou Souedjere, directrice de la maison TV5 Monde à Lomé. Pour celle qui côtoie au quotidien les enfants, le développement ne peut être effectif que si on investissait dans la jeune génération.
Avec le livre, c'est tous les secteurs qui sont exploités, de la culture à l'économie, de la politique au social. Et je pense qu'il faut nécessairement qu'on ramène nos enfants, nos jeunes à la lecture, une vraie éducation ou un vrai développement. Je parle d'éducation, éducation comme sous-bassement du développement.
Maître Joseph Kokou Kofigo, ancien premier ministre togolais, qui a sorti ce 9 novembre son nouvel ouvrage « Regard sur le Togo », qui est un recueil de poèmes, insiste sur la culture du livre pour soutenir le développement.
C'est en semant des graines dans nos cerveaux que nous allons développer l'Afrique. Donc nous devons encourager la jeunesse à lire bande dessinée, poésie, théâtre, romans, ouvrages scientifiques. Tout est bon pour développer l'imagination et la créativité des jeunes.
La thèse selon laquelle les jeunes ne lisent plus n'est pas forcément attestée, nuance l'écrivaine togolaise Kouméalo Anaté.
C'est pas sûr que notre temps on lisait plus. Ce qu'il faut dire, quelle que soit l'époque, le livre et la lecture, c'est une question culturelle. C'est une question de pratique, c'est une question d'habitude. Donc je pense que c'est lié aussi à notre éducation, c'est lié à notre environnement. Environnement familial, environnement scolaire.
Pour donner le goût de la lecture à une personne, il faut s'y prendre tôt. C'est ce à quoi est dédié l'espace enfant installé sur le site de la Foire internationale du livre de Lomé. Mohamed Garba est l'un des encadreurs des enfants.
C'est dans le livre qu'il y a la connaissance. Donc dès le bas âge, si on inculque ça à l'enfant, on lui fait aimer les livres. Et là, vous verrez que déjà, c'est une très bonne base pour lui. Et il n'aura pas trop de difficultés demain parce que toutes les sciences sont toujours dans les livres. C'est une très belle initiative. Ça va beaucoup les aider si c'est répétitif. Une fois dans l'année n'est pas vraiment suffisant.
Des jeunes lycéens ont eu à échanger avec l'auteur invité d'honneur, le Togolais Aï Hila, auteur de plusieurs œuvres dont il s'appelait Muammar. Des échanges qui ont suscité des vocations. Cornelia Lambeau, élève au lycée de Niekonakwe dans la capitale togolaise.
Il m'a inspirée parce que tout d'abord, j'aime écrire. Mais c'est juste que j'ai peur de développer ce que j'ai à dire. Mais grâce à lui, je pourrais écrire quelque chose que je pense depuis toute mon enfance. Les Européens disent que pour cacher la vérité aux Africains, on a écrit dans le livre. Ils savent qu'on n'aime pas lire, mais l'auteur, il nous a ouvert l'esprit pour lire.
Le gros du travail qui reste à faire est de maintenir la flamme pour qu'elle ne s'éteigne pas. Rendez-vous donc en 2020 pour le tome 4 de la Foire internationale du livre de Lomé, avec des chapitres aussi palpitants les uns que les autres. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.